Territoire en mouvement, émission spéciale, ce matin avec Samuel de la station de Saint-André-de-Sanglinus. Nous nous sommes rendus à l'invitation de Gilles Cohen et Jean-François Soto à une réunion et un point presse organisé par la communauté des intercommunalités d'Occitanie. Tout ce beau monde, donc tous les départements se retrouvaient en délégation au Somnambule pour une journée d'échange. Et donc avant cette journée de travail, nous avons eu la chance donc de pouvoir échanger avec les deux délégués représentant cette association et cette institution. Donc nous avons eu la chance d'échanger avec Régis Banquet, président de Carcassonne Agglo, donc venu de l'Aude voisine. Et Jean-François Soto, président de la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault, qui nous ont indiqué quels allaient être les enjeux, les défis pour nos territoires. Et ça a été l'occasion de beaux échanges constructifs et des choses, je pense, qui sont intéressantes pour vous, chères auditrices et auditeurs de RPH et RPH Sud. Bonne écoute et bonne journée à vous.
Jean-François Soto, vous accueillez donc sur votre commune de Gignac une réunion de rentrée avant le prochain congrès pour l'Association des intercommunalités de France. Vous pouvez un peu nous parler finalement de l'objet de cette journée ici au Somnambule à Gignac ?
Tout simplement, c'est une habitude chaque année que Intercommunalité de France, avec mon collègue et ami Régis Banquet, président de l'agglomération de Carcassonne, puisque nous sommes un peu aujourd'hui tous les deux référencés comme étant des porteurs de parole pour l'ensemble des collègues. Et aujourd'hui, au Somnambule, à Gignac, nous avons le plaisir, dans ce territoire, d'organiser et d'accueillir les réunions régionales des intercommunalités de la région Occitanie. Et pour ce faire, préparer le Congrès national des intercommunalités de France qui se déroulera du 13 au 16 octobre 2026 sur Dunkerque et qui va voir le renouvellement de nos instances post-élection municipale et intercommunale, telle que vous le savez, en mars 2026. Donc aujourd'hui, très heureux de les accueillir ici, dans ce lieu qui a été magnifié et qui voit aussi un certain nombre de travaux pour accueillir la scène nationale au travers de son label pour les musiques actuelles. Et vous avez vu certainement sur le parking l'installation de nouveaux lieux pour une école de musique intercommunale encore plus approfondie, avec des studios d'enregistrement et un conservatoire régional à rayonnement intercommunal.
Quel va être le sens finalement? Alors il y a beaucoup de thématiques portées par les communautés de communes, les intercommunalités, des thématiques de fond. Quelles vont être les priorités durant cette journée? Enfin voilà, le sens finalement de ce rendez-vous avec vous.
D'abord, c'est une journée profondément politique aujourd'hui, parce que moi je suis très heureux d'être à Gignac chez Jean-François. Ça va nous permettre de montrer ce que représente aujourd'hui Intercommunalité de France, notre association. C'est l'équivalent de l'association des maires, mais pour les intercommunalités. Et on porte des sujets qui sont majeurs aujourd'hui pour nos territoires. Il y a la préparation du congrès, Jean-François en a parlé, je ne veux pas revenir dessus. Et puis il y a au-delà de ça des nouveaux élus qui arrivent au niveau intercommunal. Et l'idée pour nous deux, pour Jean-François et pour moi, c'est de leur montrer qu'il y a des défis majeurs que nous devrons aborder sur ce mandat. Et ces défis majeurs, bien, il faut se les approprier, il faut travailler sur la façon dont chaque territoire va pouvoir se projeter par rapport à ces défis. Et ces défis, on les connaît tous, c'est à la fois l'accès aux soins, et ça, bon, c'est le portefeuille quelque part de Jean-François, et donc il travaille là-dessus, que ce soit au niveau local ou national, et il y a la réussite de Gignac, je veux dire, par rapport à ça, est formidable. Il y a tout ce qui touche aux transitions par rapport aux défis climatiques qui nous est proposé par la nature aujourd'hui. Bien sûr, l'eau fait partie de ces sujets-là. Pour moi, c'est un enjeu majeur. Sur les 20 ans à venir, on aura l'occasion de le développer dans la journée. Et puis, il y a aussi un sujet qui me paraît important, c'est le vieillissement de la population. Il faudra, après les années 2030, se préparer dès aujourd'hui, parce qu'on va au-devant d'un mur. Il faudra maintenir à domicile toute cette génération d'après-guerre, on dira, et cette génération d'après-guerre, elle aura besoin que nous organisions beaucoup plus fortement les services de maintien à domicile pour que ces gens-là puissent continuer à vivre chez eux et finir leur vie tout à fait tranquillement. Donc on a des défis importants à relever et Intercommunalité de France, cette association nationale, va nous permettre eh bien, de nous accompagner, nous élus de terrain, à relever ces défis.
Bonjour, on avait eu la chance de rencontrer Carole Delga à Carcassonne pour la réunion des donateurs par rapport aux sinistrés des feux des Corbières. Vous parlez justement d'urgence climatique, du problème de l'eau, et on pourrait aussi parler de ce qui arrive au monde paysan. On perd de plus en plus d'actifs et on se retrouve avec des friches. Ces friches deviennent des zones sensibles pour les départs de feu. Carole Delga a parlé de reverdir les Corbières, d'avoir un plan d'action. Est-ce que du coup vous êtes un peu sur la même ligne et travaillez ensemble sur ces thématiques-là?
Alors, politiquement, moi, je suis totalement sur la ligne Delga, pour ça que ce soit clair. Donc, ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, c'est faire en sorte que l'Occitanie devienne un territoire d'expérimentation et que l'on déroge à certaines règles. Aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est que les normes en France nous obligent à faire énormément d'études avant de sortir un projet. Je vous donne juste je dirais un exemple. C'est le projet Aqua Domitia que veut faire Carole Delga pour récupérer l'eau du Rhône et l'amener sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, deux départements qui sont aujourd'hui en difficulté par rapport à la ressource en eau. 6 ans d'études, 3 ans de réalisation. Voilà, je résume la situation. Alors, à 6 ans d'études, aujourd'hui, c'est impossible. Nos agriculteurs, aujourd'hui, ont besoin immédiatement de la ressource en eau. Sinon, dans 6 ans, ils auront tous crevé. Quoi. Excusez-moi de l'expression. Mais donc, ce n'est pas dans 6 ans qu'il faudra leur amener l'eau, c'est tout de suite. Donc, il faut avoir la capacité de déroger à certaines règles. Je dis, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais déroger à certaines règles pour qu'on puisse amener l'eau, par exemple, à nos paysans et nos agriculteurs, tout simplement pour assurer notre souveraineté alimentaire. Demain, le territoire qui n'aura pas la capacité de nourrir sa population sera en grande difficulté. Et donc l'agriculture fait partie des éléments que l'on doit développer et que l'on doit accompagner sur les années à venir.
Pour ma part, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vient de dire Régis. Simplement prendre un exemple concret. Ici, sur notre territoire, on a la ZAD de Gignac, qui aujourd'hui, grâce à cet outil ancestral, permet en tous les cas à tout un territoire. Mais il faut le moderniser. Prochainement, d'ailleurs, on va, mi-octobre, enfin, avant le 10 octobre, on va inaugurer les nouveaux travaux qui sont faits qui ont été réalisés et la mise à niveau vers Saint-André, Seyra, Saint-Félix, etc. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a aussi travaillé de l'axe Saint-Guyen-le-Désert jusqu'à Bellarga et encore plus la rénovation et autres. Donc, c'est un sujet majeur. L'eau, de toute façon, que ce soit pour nos populations, et ensuite l'eau pour accueillir un petit peu de nouvelles formes de justement d'agriculture ou autre, je rajouterai le département. En tous les cas, le département de l'Hérault a fait un PAEN qui a sacralisé des terres agricoles justement. Même pas spécialement avec de l'eau, mais pour permettre justement de sacraliser des terres nourricières potentielles. Et donc, pour ce faire, donc, je crois qu'on est tous les élus, enfin ceux qui sont responsables, hein, bien sûr, d'où le fait de la politique qui est portée par la région Occitanie, sa présidente, et aussi un certain nombre de départements dans lesquels nous figurons dans les exécutifs, et bien entendu les intercos permettent justement d'aider dans la qualité de la compétence, mais sur tous les sujets. Aujourd'hui, moi je m'occupe, et j'ai la délégation aujourd'hui de l'accès aux soins, au niveau national, et puis plus localement, ben là aussi, c'est des sujets majeurs. Aujourd'hui, toute la question du vieillissement de la population, d'avoir des infrastructures, l'accès à des plateaux techniques, l'accès des disciplines sur tous les sujets, même le développement de la culture. Ben, on est ici dans un lieu culturel. Je parlais tout à l'heure du conservatoire régional à rayonnement intercommunal. C'est extraordinaire. Le label national pour les musiques actuelles sur des territoires de moins de, de 43 000 habitants pour la vallée de l'Hérault. Je ne parle pas sur l'agglomération de Carcassonnaise, mais globalement, si on veut rapprocher les gens et continuer à avoir un milieu tissu républicain, on insiste bien là-dessus, je crois qu'on va avoir une politique et je crois que les couvertures presse de ce matin se passent de tout commentaire. De toute façon, aujourd'hui, dans les excès, qui peuvent avoir un certain succès pour une partie de la population, mais qui, pour nous, en tous les cas, élus républicains, on est vraiment en train de se poser d'énormes questions. Et on espère que la raison va revenir dessus, parce qu'il y va d'un engagement très important. Et sous le couvert de se faire plaisir à un instant T, je peux vous dire que derrière, ça peut avoir des conséquences terrifiantes.
Alors, vous avez parlé d'enjeux avec de l'urgence au niveau de l'eau, au niveau de la transition écologique, on peut parler aussi des déchets. C'était une année municipale, donc il y a le congrès qui arrive, avec un prochain mandat pour l'association. Comment vous l'imaginez? On entend parler de la dette, de l'État. On sait qu'il y a beaucoup de départements souffrant économiquement. La région, ça va être là aussi un enjeu rien que pour vous, pour pouvoir mener à bien ce mandat, comment ça va être pour vous, comment vous l'imaginez financièrement?
Les discussions sur le budget 2027 débutent en ce moment. Donc on verra à quelle sauce on va être mangé. Mais croyez-moi, on ne se laissera pas manger sans protester. On a eu un budget 2026 qui a été très pénalisant pour l'intercommunalité. 50% de l'effort des collectivités, c'est l'intercommunalité qui l'a porté. C'est plus possible et c'est plus acceptable. Donc sur le budget 2027, le Premier ministre a dit qu'il avait entendu la voix des intercommunalités. J'espère qu'il va l'entendre comme il faut pour que le seul endroit, la seule collectivité aujourd'hui qui est capable de porter du projet au niveau territorial et au niveau local, c'est l'intercommunalité. De plus en plus de communes sont en difficulté. Le département aujourd'hui est cadenassé par sa compétence sociale qui l'occupe aujourd'hui, je dirais, à 80 ou 90%. Donc aujourd'hui, où c'est que l'on peut développer du projet, c'est au niveau intercommunal. Et donc c'est l'intercommunalité qu'il faut protéger, qu'il faut aider pour que dans les territoires, on puisse développer, que ce soit des projets de santé, que ce soit des projets au niveau de la ressource en eau, que ce soit des projets de transition écologique, des projets économiques, parce qu'il faut créer de la richesse pour pouvoir la redistribuer. Donc tous ces projets que l'on souhaite porter au niveau intercommunal, mais il faudra que l'État nous entende. Et je dirais qu'aujourd'hui, il faudrait même aller beaucoup plus loin vers une décentralisation beaucoup plus forte vers l'intercommunalité, parce que cette décentralisation qu'on appelle tous de nos voeux, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que depuis 10 ans, c'est plutôt une recentralisation qu'on a vue qu'une décentralisation. Donc il faudra, je dirais, réfléchir correctement pour que bien les territoires puissent continuer de se développer avec des moyens et non pas, je dirais, privilégier les moyens pour d'autres sujets qui, aujourd'hui, ne sont pas majeurs pour nous.
L'intercommunalité, c'est le reflet, avec les autres collectivités, ça a été très bien dit, hein, département et région, une collectivité de proximité. Et ce qui a été rappelé très justement, c'est qu'en 2026, le budget a plutôt amputer encore plus les intercos. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'en même temps, en plus, ça vienne cette année une autre strate du bloc local qui soit de nouveau mis à contribution. Parce que de toute façon, on ne fait plus qu'un. Et à partir de là, je rappelle aussi que nous sommes des donneurs d'ordre. Moi, je vais prendre des exemples. Aujourd'hui, tout ce qui touche l'agriculture, on l'a dit, tout ce qui touche la culture, mais tout ce qui touche les travaux publics, tout ce qui touche le bâtiment de terrain, si les collectivités qui sont en capacité de porter des projets et de réaliser certaines choses, il va y avoir tout un pan. Et globalement, je rappelle que quand il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se former, du mal à trouver des entreprises, eh ben derrière, on les retrouve 18 mois après, malheureusement au RSA, et ça continue à étrangler les départements. Donc, j'attire, et avec mon collègue Régis Banquet, vous voyez, on est vraiment tous sur les mêmes visions des choses, parce que quand on est confronté à la vie quotidienne des gens, et si vous habitez le territoire, vous le savez, on fait beaucoup, 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 et malgré ce, la population, tant sur le plan de la fiscalité, nous dit « attention, soyez modérés ou prudents », et de notre côté, nous demande de plus en plus. Et concernant les déchets, qui est un véritable enjeu, je dirais que dans la semaine, le travail porté par Intercommunalité de France, avec d'autres, hein, mais en particulier grâce à notre association, a fait reculer sur des taxes qui allaient globalement sur le plastique en particulier. Et donc ça, c'est le poids et la réalisation est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant de montrer que lorsque tout le monde nous agissons, eh bien, on peut avoir des résultats. Après, on connaît tous l'environnement mondial. on est un peu impuissant, sauf que l'effet papillon fait qu'aujourd'hui, derrière, on est dans des éléments particuliers. Et si vous le permettez, je rajouterai un point. La gestion des risques. Alors, le département de l'Aude, ça fait quelques années. Tout le monde a bien compris. Et on a une pensée d'ailleurs pour les habitants de Poma en particulier, mais il y a des communes qui ont été moins touchées chez nous, mais quand même, qui restent quand même des lieux qui ont été un peu très touchés il n'y a pas très longtemps avec cette tempête. Au final, c'est la gestion des risques incendies. Et nous, on a la chance sur ce territoire, et le département de l'Hérault a mis les moyens avec une politique très ambitieuse au niveau du SDIS 34, avec une flotte aérienne, avec un centre de formation et de prise en considération et en formation en situation d'urgence qui est sur la vallée de l'Hérault et à Gignac en particulier. Bon, ça vient du monde entier, de l'Europe, où les forces de sécurité civile viennent se former. Je pense que tout le monde aura besoin demain d'avoir... mais les SDIS le font, tout le monde envoie des renforts, etc. Mais enfin, c'est des moyens considérables. Et je ne sais pas, j'espère en tous les cas, que chacun prendra conscience que la sécurité civile est aussi un enjeu pour nous toutes et tous. Et que... il va falloir, en tous les cas, protéger. Et puis, c'est aussi un travail de biodiversité, parce que, comme le disent les dirigeants, ils disent « plus on intervient vite, plus on arrête, et plus on protège la biodiversité, parce qu'on est mieux formé, on est mieux équipé, et on intervient rapidement. » Si tout cela n'est pas entendu, je peux vous dire que les politiques zéro d'investissement... Alors, on va taire le truc, mais dire qu'on n'augmentera pas les impôts, il y a un parti politique en particulier qui le dit à tous les jours, c'est vraiment mentir aux citoyens.
J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant des développements de territoire. On se rend compte que par chez nous et aussi par chez vous, ce sont des territoires qui sont attractifs. De plus en plus de personnes souhaitent venir par chez nous. Et donc, du coup, ça demande aussi d'anticiper sur tous ces développements pour avoir une réception de ces gens dans ces bonnes conditions et aussi d'arriver à trouver un tourisme qui bénéficie à tout le monde et qui ne soit pas un tourisme qui va juste sur des spots où il y a du surtourisme qui est difficile. Donc ça demande beaucoup de réflexion, d'arbitrage, d'anticipation et donc de moyens aussi pour faire ces développements de manière à la fois durable et qui permette à tous de vivre de ce développement.
L'Occitanie, aujourd'hui, reçoit à peu près 50 000 habitants de plus par an. 50 000 habitants de plus par an, c'est la ville de Carcassonne. Voilà. Je vous résume la situation. Donc, ces gens-là, bien sûr, il faut les loger. Bien sûr, il faut leur trouver du travail, parce que souvent, c'est des gens qui viennent chercher un travail chez nous parce qu'ils sont partis de territoires qui se désindustrialisent. Donc c'est tout l'aspect aussi développement économique qu'il faut, sur lequel il faut réfléchir. Mais le principal, c'est que demain, il faut avoir une vision d'aménagement du territoire qui sera totalement différente de celle qu'on a connue jusqu'à présent. La consommation des espaces, la façon de construire, la façon de vivre sur nos territoires sera totalement différente demain de ce qu'elle peut être aujourd'hui. Et c'est ce à quoi il faut s'attacher, à réfléchir dès le début de ce mandat pour pouvoir anticiper et faire en sorte que sur, je dirais, la durée de ce mandat, nous puissions changer de paradigme en ce qui concerne l'aménagement du territoire que nous avons connu pendant 30 ou 40 ans où c'était le lotissement classique avec son petit terrain, sa petite piscine, etc., qui représentait la réussite sociale quelque part. Bien qu'aujourd'hui, moi ce que je dis à mes élus, chaque fois que vous faites un lotissement, vous m'envoyez 5 factures. Alors ne l'oubliez jamais. Donc il y a les factures de tout ce qui est bien sûr transport, il y a les déchets, il y a l'accueil des enfants avec la petite enfance, etc. Et il y a tout ce qui est bien sûr réseau sec et réseau humide qu'il faut aménager, l'eau en particulier, etc., etc. Et donc dans un territoire qui est devenu un territoire en tension aujourd'hui, eh bien l'aménagement du territoire, il faut le repenser pour que demain nous puissions à la fois accueillir, mais à la fois continuer de vivre sereinement sur ce territoire, parce que si on continue de consommer de l'espace et de bétonner à outrance, eh bien on aura des surprises dans quelques années.
En même temps, je répondrai aussi que la région Occitanie, c'est tout un réseau de grands sites d'Occitanie, c'est tout un réseau de grands sites de France. Le pays Cordero, nous en avons 3. Vraiment dans un périmètre qui est concentré sur le cœur de l'Hérault. Donc à partir de là, aujourd'hui, la question de surtourisme, bien entendu, pose interrogation. On a mis des moyens colossaux pour aménager, essayer de réguler. Après, sur le point de certains comportements, on essaie d'endiguer cela avec toutes les forces régaliennes possibles. Je dirais qu'aujourd'hui, l'été, hormis le mois de juillet qui a été difficile, voire douloureux dans certains aspects, mais ça, je pense que chacun comprendra que l'environnement climatique y est aussi un peu pour beaucoup. Après, il y a tout le contexte pouvoir d'achat, façon de se déplacer, le coût de l'énergie, etc., qui pèse. Et maintenant, la rentrée qui est là et que nous abordons avec confiance, mais je crois qu'en tous les cas, la région Occitanie est un territoire moderne qui sait s'adapter, qui saura faire face aux enjeux. Après, cela ne sera que par la force des hommes et des femmes qui composent ce territoire. Mais on a quand même la chance d'accueillir 50 000 nouveaux habitants. Mais c'est à la fois un très très bon point, parce que je considère et nous considérons que c'est quand même un atout. Mais en plus, en même temps, par rapport à la jeunesse, il faut aussi qu'on ait un regard visionnaire pour justement affronter les enjeux, parce que toutes les politiques que nous menons, c'est des positions aussi et des politiques de transmission. C'est pas répondre que à une réponse à un instant T. C'est aussi répondre à une politique au long cours qui est robuste pour pouvoir justement envisager justement qu'il y ait toujours de la lumière, etc. Alors après, on sait tous qu'il y a des challenges à relever. Bon, je crois qu'il faut avoir une vision à la fois technologique, à la fois face aux enjeux du temps, mais aussi par rapport aux enjeux démographiques. Et comme l'a dit Régis, je terminerai là-dessus, attention, il faut quand même consommer l'espace et la nature dans un certain axe, sans tourner le dos à tout ce qui est nourricier.
Cette émission Territoire en mouvement est terminée. Merci à Bernard Bardou, animateur œnologue, et à Damien Sintès, journaliste à Radio Lodève, d'avoir animé cet entretien. Et merci à monsieur Régis Banquet, président de Carcassonne Agglo, et à monsieur Jean-François Soto, président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault et maire de Gignac, d'avoir répondu à nos questions.